Et voici le journal de Clara Lecoq Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La cure d'austérité aura duré 8 ans en Grèce. La réunion de cette nuit, 6 heures, assez pour décider de la fin de la tutelle européenne sur les finances grecques. Que dit cet accord et quel avenir pour la Grèce sur le plan économique? Réponse avec notre spécialiste Marie Viennot dans un instant.
Les États-Unis placent des mineurs immigrés dans des centres de rétention ou sur des bases militaires. Pendant ce temps, l'Italie continue de refouler des navires humanitaires. Les questions migratoires sont encore au cœur de l'actualité ce matin. Nous y reviendrons.
Nous nous pencherons aussi sur la situation explosive au Nicaragua. Nouvelle charge des forces gouvernementales hier sur une ville dite rebelle. Les évêques du pays veulent s'interposer.
Et puis en France, la loi sur le secret des affaires est définitivement votée au Parlement. Le secret devient la règle et la liberté d'expression est l'exception, dénonce Anticor.
Gouverné par euphémisme, voici le titre du billet politique de Frédéric Seyss que nous retrouverons dans un gros quart d'heure. Un moment historique, selon le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici. Après des heures de négociations hier soir, les ministres des Finances de la zone euro se sont mis d'accord pour alléger la dette grecque et pour permettre au pays de sortir du programme d'aide qui aura duré 8 ans. Au total, la Grèce a bénéficié de 273 milliards d'euros de prêts en échange de réformes économiques et sociales. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour.
Vous suivez ce dossier pour France Culture. Marie, qu'ont décidé les créanciers cette nuit pour permettre à la Grèce de se libérer de la tutelle européenne?
Bien, l'enjeu de la réunion d'hier, c'était de rendre la Grèce suffisamment attractive pour redonner confiance aux créanciers privés. Voilà pourquoi il fallait alléger la dette grecque pour donner aux marchés financiers le sentiment que oui, cette dette était devenue remboursable. Au final, il y aura donc un allongement de 10 ans de la période de remboursement de certains prêts. Rien de très massif cependant par rapport à tout ce qui était sur la table. L'Eurogroupe prévoit d'ailleurs de se retrouver en 2030 pour voir s'il convient à ce moment-là encore d'alléger la dette grecque ou pas. Autre décision à minima, le montant de la dernière tranche de prêt, ce sera 15 milliards d'euros alors que les discussions portaient sur 15 à 20 milliards. En échange, la Grèce a accepté de poursuivre toutes les réformes passées jusqu'alors, tous les trimestres, au lieu de tous les ans pour les autres États de la zone euro. Sa politique et ses finances seront passées au crible par l'Eurogroupe qui, si tout va bien, pourra débloquer les intérêts que les États de la zone euro ont engrangés en lui prêtant de l'argent. Ces intérêts avoisinent environ 1 milliard par an. En clair, donc, la plus-value faite sur la dette grecque reviendra à la Grèce si elle poursuit les réformes. Il reste donc un marchandage réforme contre argent après la sortie de ce programme.
Alors Marie, hier soir, Bruno Le Maire, ministre des Finances français, disait « Le problème de la dette grecque est maintenant derrière nous ». Est-ce le cas?
Alors, selon l'Eurogroupe, toutes ces mesures doivent permettre à la Grèce d'être autonome financièrement pendant 22 mois. La Grèce pourra emprunter sur les marchés financiers, mais si les conditions ne sont pas réunies, pendant 22 mois, elle n'est pas obligée de le faire. Après, tout dépend de la croissance de la Grèce et de sa capacité à dégager des excédents budgétaires. Pour que tout aille bien, la Grèce est censée avoir un excédent primaire de 2,2% de 2023 à 2060. Comprenez, 37 cette année sans aucune relâche. C'est ça qui est très ambitieux et très optimiste, mais les plans de l'Eurogroupe l'ont toujours été, car être optimiste, c'est justement ce qui donne confiance aux marchés financiers.
Merci Marie Viennot. Du tabac, du beurre de cacahuète, des jeans, des motos, la liste était déjà connue, mais c'est à partir d'aujourd'hui que l'Union européenne applique des droits de douane à hauteur de 25% sur des dizaines de produits américains. Une riposte à l'application par les États-Unis depuis le début du mois de taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Pour l'instant, cette riposte atteint à peine 3 milliards d'euros. C'est deux fois moins que le montant des tarifs douaniers américains. Le rééquilibrage complet n'est prévu que dans 3 ans. La situation des enfants migrants aux États-Unis n'est toujours pas réglée ce matin. Hier soir, le ministère américain de la Santé a demandé au Pentagone de se préparer à héberger 20 000 enfants migrants non accompagnés, entrés sur le territoire américain, de les héberger sur des bases militaires, notamment au Texas ou en Arkansas. Cette demande était inscrite dans le décret signé avant-hier soir par Donald Trump. Revenons d'ailleurs sur cette courte marche arrière effectuée par le président américain qui a promis, rappelons-le, de réunir les familles, quitte à ce qu'elles soient emprisonnées ensemble. Sa femme, hier, Melania Trump, s'est invitée dans le débat en rendant visite par surprise aux enfants immigrés du Texas. Voilà pour la polémique aux États-Unis qui continue face aux immigrations aux portes de l'Europe. Maintenant, certains meurent encore et toujours. Près de 220 migrants se sont noyés en mer Méditerranée ces deux derniers jours au large de la Libye. Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés l'affirme et appelle à une action internationale urgente. L'Italie, par ailleurs, par la voix de son ministre de l'Intérieur, a refusé hier qu'un navire d'une ONG allemande ne débarque 200 migrants sur ses côtes. Les embarcations de ces ONG seront ensuite séquestrées par les autorités italiennes. Les précisions de Mathilde Imberti.
Où iront cette fois les migrants sauvés hier par l'ONG Lifeline? 226 personnes dont l'Italie ne veut pas. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, cite Malte ou la Libye comme possible destination. J'accueillerai le bateau, mais uniquement vide, a-t-il fait savoir dans la soirée. Un Matteo Salvini inflexible qui contredit son collègue des transports, ministre 5 étoiles, qui un peu plus tôt s'était dit disposé à accueillir ces migrants. L'Italie annonce par ailleurs la séquestration des deux navires de l'ONG allemande, le temps de contrôler leur identité. Ils battent pavillon hollandais, mais Amsterdam fait savoir qu'ils n'apparaissent pas dans les registres navals. Une mise à l'écart de fait des opérations de secours pour cette ONG alors que la tragédie se poursuit au large. Plus de 200 migrants se sont noyés en Méditerranée centrale en deux jours, recense le Haut Commissariat pour les réfugiés. Choqué par ces noyades en masse, l'ONU demande une action internationale urgente pour renforcer les efforts de sauvetage.
Mathilde Imberti, notre correspondante en Italie. Au niveau européen, en tout cas, les pays membres de l'Union semblent incapables de dialoguer tous ensemble. Preuve en est, un mini-sommet sur la question prévue dimanche sera boycotté par les pays du groupe de Visegrad. Comprenez la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque. Ils l'ont décidé hier ensemble.
8h07 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Des manifestations sont organisées un peu partout en Espagne aujourd'hui.
Oui, sur Twitter, un hashtag est même lancé. Si la meute sort, nous sortons dans les rues aussi. La meute, c'est ce groupe de 5 jeunes hommes qui a abusé d'une femme de 18 ans pendant les fêtes de Pamplune en 2016. Ils avaient été condamnés en avril à 9 ans de prison pour abus sexuels et non pour viol. La décision avait entraîné des manifestations de protestation. Eh bien, le même tribunal a décidé hier leur remise en liberté sous contrôle judiciaire contre une caution de 6 000 € chacun. Hier soir, déjà des milliers d'Espagnols, Espagnols ES, sont descendus dans les rues pour crier leur colère. Ces manifestations-là s'opposent au pouvoir de Daniel Ortega et dégénèrent bien trop souvent. Au Nicaragua, un nouvel assaut des forces de l'ordre, des forces gouvernementales, a été lancé hier soir sur la ville de Masaya, ville déclarée en rébellion par ses habitants. Les évêques catholiques du pays ont annoncé dans la foulée qu'ils se rendraient dans la ville pour, disent-ils, éviter un nouveau massacre. Fanny Bouvard.
Masaya est connue comme un véritable bastion de résistance contre le pouvoir central. À la fin des années 70, les habitants ont même pris fait et cause pour Daniel Ortega et la révolution sandiniste, et donc contre le dictateur Somoza, alors à la tête du Nicaragua. Presque 40 ans plus tard, Masaya est toujours aussi combative et demande sans détour le départ d'Ortega. En deux mois, des groupes d'opposition se sont formés et armés, quartier par quartier. Ils ont monté des barricades, des barrages sur tous les axes principaux, et la ville est devenue une cible pour le gouvernement. Impossible de dire combien de morts ont fait exactement les combats quotidiens dans Masaya, et la Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui s'est rendue sur place à la fin du mois de mai, n'a pas encore dévoilé son rapport. D'ailleurs, d'autres organismes internationaux tels que l'Union européenne et le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme viennent d'être invités au Nicaragua pour enquêter sur la situation. C'était l'une des exigences des évêques qui organisaient ce week-end la médiation entre opposition et gouvernement. Les discussions ont même été suspendues le temps que les invitations officielles soient envoyées. La médiation devrait donc reprendre prochainement pour évoquer en priorité l'organisation d'élections générales anticipées dès 2019, soit 2 ans plus tôt que prévu.
Les évêques qui pour le moment donc vont tenter un dialogue sur les lieux mêmes de la mobilisation et de la répression. En 2 mois au Nicaragua, plus de 180 personnes sont mortes lors d'affrontements. La Turquie votera 2 fois ce dimanche pour renouveler et son parlement et son président. Si le vote pro-kurde est encore incertain et pourrait faire bouger les lignes aux législatives, le résultat de la présidentielle, en revanche, ne fait quasiment aucun doute. Le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, fait la course en tête. Il est crédité de 45% des intentions de vote à deux jours du scrutin. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour Clara.
Vous revenez de Turquie où vous avez tourné un magazine de la rédaction qui sera diffusé ce soir. Et vous avez tenté de savoir, Eric, de comprendre ce qu'est l'erdoanisme, si l'on peut dire.
Oui, Recep Tayyip Erdogan est en effet au pouvoir depuis 2002 en Turquie, d'abord comme Premier ministre, puis depuis 2014 comme président élu du pays, un président élu au suffrage universel. C'était la première fois en 2014, ce sera peut-être la seconde s'il est réélu à la faveur de cette présidentielle. On s'est donc posé la question de savoir ce qui caractérisait son règne et sa personne. S'agit-il d'un leader politique populiste, un peu à la manière de ce qu'on peut trouver en Europe? Son autoritarisme grandissant est-il à rapprocher de celui d'un Vladimir Poutine, par exemple, ou s'agit-il de toute autre chose? Erdogan est-il porté ou surfe-t-il sur une idéologie de type islamiste, et jusqu'à quel point? Alors, premier constat, c'est que Recep Tayyip Erdogan, au-delà d'un populisme du discours, est aussi et d'abord un homme authentiquement populaire, qui vient du peuple, il en a la gouaille, le parler, et tout hyper-président qu'il soit aujourd'hui, nanti de pouvoir étendu, il est toujours au moins une fois par semaine face au peuple, en réunion publique, en meeting. En ce moment d'ailleurs, c'est pas une fois par semaine, mais deux à trois fois par jour, campagne oblige. Deuxième constat, la popularité d'Erdogan, elle est réelle, elle tient aussi beaucoup à ses réformes économiques, libéralisation, aide publique dans le secteur de la santé, privatisation, grands travaux. La Turquie peut aujourd'hui s'enorgueillir d'un taux de croissance de 7,4%. Et puis, il y a ce côté néo-ottoman, c'est un décorum souvent un peu kitsch, on aime à se parer des oripeaux de l'Empire, qui est mort avec l'avènement de la République en 1923, on ressort les drapeaux aux trois croissants, les fezes, on construit d'immenses mosquées de béton, en copiant celle de Sultanahmet, la mosquée bleue. Mais il y a plus inquiétant aussi, la constitution par exemple de ces foyers ottomans, sorte d'associations politiques copiées sur le modèle des foyers idéalistes de l'extrême droite, des loups gris, des foyers ottomans qui regroupent près des centaines de milliers d'activistes, peut-être des millions, présents partout dans le pays, et qui sont, comme ils le disent quand ils prêtent serment eux-mêmes, qui sont prêts à mourir pour leur leader. L'erdoanisme, si une telle chose existe, c'est aussi ça.
Erdogan, le retour du sultan, d'un sultan, c'est votre reportage. Eric Biegala, merci. Magazine de la rédaction diffusé à partir de 17h, vous l'avez réalisé avec Annie Brault. Et il sera suivi ce soir d'un débat autour d'un économiste politologue et d'Aurélie Kiefer. Par ailleurs, notre matinale spéciale Turquie en partenariat avec l'Obs continue après ce journal.
Avec Edem Eldem, professeur d'histoire à l'université de Boğaziçi à Istanbul, qui vous racontera l'Empire ottoman et ses conséquences aujourd'hui dans l'élection, comment en fait un pays cléomane, c'est comme ça que vous dites Edem Elden, peut en Turquie façonner un pouvoir avec la réélection ou non d'Erdogan. Avant cela, on poursuit donc cette édition, Clara Lecoq-Réal, et c'est aujourd'hui que l'Assemblée Générale de Lafarge-Olcim se réunit pour élire son nouveau PDG.
Le cimentier est toujours accusé d'avoir versé des pots de vin à différents groupes terroristes pour protéger ses intérêts en Syrie, au groupe État islamique notamment. Il y a un mois, son PDG Saad Sebar démissionnait, mais l'affaire date d'il y a 4 ans, Hugo Chesinski.
En 2014, les groupes Lafarge et Olcim fusionnent. Ensemble, ils veulent devenir le groupe de matériaux de construction numéro 1 dans le monde. À la tête de Lafarge Olcim, il y avait Eric Olsen, un franco-américain. C'est lui qui est à l'origine de cet accord entre les deux géants. Mais c'est également lui qui était à la tête de la cimenterie française en 2016, lorsque le scandale autour de l'usine syrienne de Jalabiya a été révélé au grand jour. Alors officiellement, pour apaiser les tensions, Eric Olsen démissionne. Et jusqu'il y a un mois, c'était Saad Sebar qu'il remplaçait, un franco-marocain de 53 ans, membre du conseil d'administration de Lafarge depuis 2015. Mais au sein même de l'entreprise, la démission de Saad Sebar avant la tenue du procès était un secret de polichinelle. On écoute Philippe Springenfield, salarié de l'entreprise.
Mais je pense qu'il a pris ses responsabilités. Il s'est dit, c'est peut-être pas pour moi la suite, ou il a dit, je veux peut-être pas me mêler à, je sais pas. Donc il a. C'est un poste qui va être difficile, voilà. C'est un poste, personnellement, je ne voudrais pas de ce poste maintenant, juste maintenant. Il faut que les gens ou nos directeurs qui ont fauté, ils soient sanctionnés comme chaque salarié sera sanctionné s'il fait une faute.
Des sanctions qui tardent à venir. Le procès prévu le 5 juin a une nouvelle fois était reportée aux grandes dames de la juge Charlotte Bilger en charge du dossier. L'élection du nouveau PDG permettra sûrement de faire accélérer la procédure judiciaire.
Et ces soupçons de financement du terrorisme par Lafarge avaient été révélés par des journalistes, notamment une enquête du Monde. À ce propos, les parlementaires ont adopté hier définitivement la loi sur le secret des affaires. Une démarche qui est contestée par certaines associations de lutte contre la corruption qui y voient une menace pour les lanceurs d'alerte et les journalistes. Inquiétude par exemple du magistrat Eric Haltz, vice-président de l'association Anticor. Il était hier soir l'invité du 22h, du journal de 22h de France Culture.
Désormais, le secret est la règle et la liberté d'expression est l'exception. Donc comment on a une définition très large et très floue du secret? Donc en réalité, c'est l'entreprise qui déterminera ce qui est secret. On a des sanctions très importantes, l'obligation de réparer intégralement le préjudice. Tout ceci se déroulera devant les tribunaux de commerce. Or, le juge de commerce n'est pas le juge de la liberté d'expression, c'est pas le juge qui est spécialisé dans la diffamation, et la charge de la preuve sera renversée. Autrement dit, c'est pas à l'entreprise de déterminer, de prouver que des secrets ont été illégalement soustraits, ce sera éventuellement aux journalistes ou aux lanceurs d'alerte de prouver qu'il est légitime que le secret qui a été dévoilé correspondait à un enjeu d'intérêt général. On est dans une situation qui renverse les principes qui sont les principes fondamentaux de notre droit.
Eric Halt avec Stanislas Vazak. Sachez par ailleurs que Caroline Brouet reviendra sur cette loi autour du secret des affaires demain à partir de 7h45 dans la fabrique médiatique avec le député rapporteur Raphaël Gauvin et Édouard Perrin, président de l'association Informer n'est pas un délit. La campagne présidentielle de 2017, Radio France avait épluché il y a quelques semaines les comptes de campagne d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon, soulevant des questions importantes, des ristournes notamment en faveur du candidat Macron. Eh bien, sachez que ce matin, Le Parisien évoque les mêmes avantages pour Benoît Hamon. L'ancien candidat socialiste aurait notamment bénéficié de 40% de réduction pour la location de matériel, ce qui correspond à 1/5 de la facture globale payée par son équipe. Un grand soleil, quasiment pas de nuages aujourd'hui, vendredi, sur le ciel français. Même chose ce week-end. Voilà pour la météo à venir et les températures. Comme hier, il faut compter 16 degrés sur la pointe bretonne et sur le nord. 17 ce matin à Paris et à Strasbourg. 21 degrés à Bordeaux, Grenoble. 25 à Nice. 28 à Perpignan.
Merci beaucoup, Clara Lecoq-Réal.